Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Nous poursuivons sur ce thème de l'autorité spirituelle et nous terminerons aujourd'hui avec un dernier message sur ce sujet. On a vu depuis le début, bien sûr, l'autorité spirituelle de Jésus et on a vu les cinq disons, conditions préalables à l'exercice de l'autorité spirituelle. Et aujourd'hui, dans ce dernier message, j'aimerais voir l'autorité spirituelle du chrétien et on va voir ensemble ce que Dieu attend de nous. Au travers de la parole de Dieu, les chrétiens bien informés, c'est-à-dire qui connaissent bien les Écritures, sont bien formés pour le servir. Alors, première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Un petit rappel, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? D'abord, ce qu'elle n'est pas. L'autorité spirituelle, elle n'est pas liée à la personnalité d'une personne. On en a parlé déjà. Elle n'est pas liée au volume de la voix d'un individu, elle n'est pas non plus liée à notre expérience. On peut avoir des années de vie chrétienne, ce n'est pas ça qui va faire qu'on a une autorité spirituelle. Elle n'est pas liée à un titre non plus, ou tel titre que l'on peut avoir dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? D'abord, c'est un mot grec, exousia, qui signifie pouvoir ou autorité. L'autorité, c'est donc un pouvoir ou une capacité qui nous est donnée par Dieu pour faire l'œuvre qu'il désire que nous entreprenions. C'est un pouvoir céleste, bien sûr. Nous ne sommes que des créatures humaines, mais Dieu donne un pouvoir céleste à des représentants terrestres, c'est-à-dire à nous, qui sommes l'Église de Christ. J'avais cité cet exemple il y a quelques semaines, qui est l'exemple bien connu du policier. Lorsqu'un policier se trouve à faire la circulation et simplement par un geste fait arrêter un camion, par exemple, un camion qui pourrait l'écraser si le chauffeur roulait mal et le policier finalement n'est qu'un homme, il ne peut pas l'arrêter par son pouvoir, par sa force. Le camion pèse plusieurs tonnes, plus de 600 fois son poids, et parce que ce policier a une autorité, alors il fait un geste et le camion va s'arrêter. Non pas parce que c'est un homme extraordinaire, mais simplement parce que l'État lui a conféré une autorité. Donc, il en est de même dans le royaume de Dieu. Dieu confère une autorité à ses enfants, aux croyants, afin qu'ils interviennent dans le monde spirituel, au niveau des... On en a parlé des mauvais esprits, au niveau des puissances, on a parlé aussi de la guérison, on a parlé de tous les domaines de l'autorité spirituelle. Et on rappelle aussi que le monde spirituel est régi par des lois. C'est des lois spirituelles qu'il nous faut connaître, et si nous ne les connaissons pas, nous ne saurons pas comment agir. Par exemple, les démons sont soumis à certains principes. Ils ne sont pas forcément soumis à des paroles, mais ils sont soumis à quelqu'un qui a une autorité déléguée, déléguée par Dieu. Si nous avons les bonnes paroles adéquates, ça ne suffira pas, il nous faut aussi avoir l'autorité pour pouvoir chasser un démon. Satan lui-même, je crois qu'on en a parlé dimanche dernier, Satan lui-même est obligé de se soumettre si nous répondons à certains principes, certaines conditions. Vous vous rappelez ce verset, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » On a vu ces principes-là de l'obéissance, la soumission à Dieu qui nous donne une autorité. Et si nous ne l'avons pas, le diable ne fuira pas. Donc il y a toutes sortes de principes dans la parole qu'il nous faut connaître et mettre en pratique. Car nous sommes appelés à une vie de victoire et pas à vivre constamment dans l'échec et dans la défaite. Le Seigneur veut faire de nous un peuple victorieux qui triomphe devant l'adversaire. Alors, on a besoin de l'autorité et de le faire avec foi. Alors, je voulais lire un texte pour voir d'où vient l'autorité. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7. On a rappelé en quelques mots une définition. Qu'est-ce que l'autorité? Maintenant, deuxième question, d'où vient l'autorité spirituelle? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ, et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absent, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Alors c'est au verset 8 qu'il est question de l'autorité, même si je me glorifie un peu trop, de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Qui est-ce qui donne l'autorité ? Donc elle vient du Seigneur, elle vient de Dieu, elle vient de Jésus. L'autorité de Paul, il le considère lui-même, il dit « ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu ». Bien sûr, Paul avait un titre, il était apôtre, il avait donc un ministère. Mais ce n'est pas lié à un titre ou à une expérience, c'est lié à cette communication d'en haut qu'il nous faut avoir. Jésus non seulement nous sauve et nous appelle à le servir, mais il nous qualifie pour le servir et il nous donne une autorité, il nous confère des possibilités. Paul n'était qu'un simple homme et on connaît aussi certaines défaillances chez Paul, certaines difficultés. Par exemple, il a fait certaines erreurs qu'il a pu regretter. À un moment donné, il s'est séparé de Jean-Marc. Il s'est d'ailleurs brouillé avec son collaborateur à ce sujet. Il y a eu certains conflits, certaines difficultés. Puis après, Paul s'est ravisé. Il a dit finalement, Jean-Marc m'est utile dans le ministère. Donc il y a eu dans sa vie aussi certaines erreurs qu'il a pu faire, bien sûr. Néanmoins, il avait reçu de Dieu une autorité pour faire le ministère. Cela ne veut pas dire que tout ce que Paul a fait était sans faille, sans défaut, était parfait, mais néanmoins, tout ce qu'il entreprenait, il demandait l'approbation de Dieu, il demandait les directives de Dieu, et Dieu le conduisait ainsi pour la gloire du Seigneur. On se rend compte dans ce passage que Paul, par certains Corinthiens, était méprisé. Vous voyez, c'est au verset 10. Ils estimaient que Paul, quand il écrivait, il était assez sévère, autoritaire, mais que quand il était présent, il n'était pas aussi avec une grande autorité qu'il paraissait. Et justement, Paul fait une mise au point, parce qu'il y avait certaines jalousies au sein de l'église de Corinthe, il y avait certaines critiques qui étaient proférées à son encontre, et Paul va leur reprocher leur rivalité entre eux, parce que certains se disaient d'Apollos, d'autres de Céphas, d'autres de Paul, et il y avait des groupes qui s'étaient créés vis-à-vis des ministères. C'est un petit peu comme si dans une église il y avait plusieurs pasteurs, et puis qu'un groupe s'attache à l'un, un groupe à l'autre, un groupe à l'autre, alors qu'il faut qu'il y ait l'unité au sein du peuple de Dieu. C'est ce que va relever Pierre. Donc certains même se sont levés dans l'église de Corinthe en disant « nous-mêmes, on peut aussi conduire l'église, on n'a pas besoin finalement de Paul ». Et ça a suscité des divisions. Et Paul va dire au verset 18, un petit peu plus loin, « ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Il revient toujours à ce principe d'autorité déléguée, parce qu'il y a des gens qui vont se lever et qui vont dire « moi j'ai reçu ceci, moi je fais ceci dans l'œuvre de Dieu ». Mais est-ce que Dieu approuve ? Est-ce que Dieu a envoyé cette personne ? Est-ce que vraiment il est recommandé par Dieu ? C'est ce que Paul, en tout cas, lui désire. Donc pour Paul, il y a ceux qui désirent avoir une autorité spirituelle, mais qui en ont l'apparence, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Et puis il y a ceux qui l'ont vraiment. Alors lui, il se situe dans ce cas de figure. Il se considère comme ayant une autorité spirituelle, parce qu'elle vient du Seigneur, parce qu'il est recommandé par Dieu. À un autre moment, Jésus lui-même a précisé que si nous avions quelque autorité, ça venait de lui. Il a dit aux disciples, voici, c'est dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents, les scorpions, on reviendra à ce verset. Mais le texte dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc nous sommes envoyés en mission pour faire le ministère, pour témoigner du Seigneur. Et Jésus nous qualifie, nous donne le pouvoir. Le pouvoir, autorité, c'est le même mot en fait dans l'original. C'est le mot exousia, toujours pareil. Tantôt traduit par pouvoir, tantôt traduit par autorité. Et les disciples sont donc partis. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé les démons parce qu'ils avaient reçu l'autorité du Seigneur. À un moment donné, ils auraient pu tomber dans l'orgueil en disant, eh bien, voilà tout ce que nous avons accompli, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Oui, mais ce n'était pas par leur force, et si nous arrivons à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est par l'autorité du Seigneur. Et Jésus va leur montrer en disant, je vous ai donné le pouvoir. Donc si vous avez réussi à guérir les malades ou chasser les démons, ce n'est pas que vous en avez la force, mais c'est parce que vous l'avez fait en mon nom, et parce que c'est moi qui agis au travers de vous. Si nous, nous ne sommes pas en communion avec Christ, nous ne pourrons pas avoir d'autorité, et cela dépend entièrement de notre relation à Jésus. Alors ça, c'était le deuxième point. D'où vient l'autorité? On l'a vu au verset 8, c'est l'autorité qui vient du Seigneur. Troisième point, qui peut exercer l'autorité spirituelle? On va lire dans Marc chapitre 16 et au verset 17. Marc chapitre 16 et le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur sera point fait de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est Jésus qui parle et qui ainsi enseigne ces choses. Voici les signes. Alors, à qui est adressée cette parole? C'est indiqué au verset 17. À ceux qui auront cru. C'est écrit comme ça dans la parole. Voici les signes pour ceux qui auront cru, c'est-à-dire, on va dire, les chrétiens. Alors vous allez me dire, peut-être il y a différentes sortes de chrétiens, il y a chrétiens et chrétiens, parce que ce mot chrétien est global. Beaucoup de gens se disent chrétiens et ne sont pas forcément chrétiens selon la parole de Dieu. Nous, quand on parle de chrétiens, ce sont des chrétiens nés de nouveau, qui croient en Jésus, qui ont leur vie en conformité avec la parole. Il nous faut aussi être remplis du Saint-Esprit. Donc, un chrétien de nom n'est pas concerné par ce sujet. Vous avez des gens qui vous disent « Oui, mais moi je suis chrétien, mais non pratiquant, par exemple. » Ça, c'est un chrétien de nom. Il n'est pas réellement chrétien comme l'indique la parole. Il n'a pas la foi, il n'a donc pas l'autorité pour faire les choses qui suivent ce verset. Un jour, j'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit « Moi, je suis de tradition... » Alors, on entend parfois « Je suis de tradition catholique ou de tradition protestante. » Et un jour, il y en a un qui m'a dit « Eh ben moi, je suis de tradition évangélique. » J'avais jamais entendu ça encore, de tradition évangélique. Il avait été baptisé, il venait plus à l'église, il suivait plus du tout les principes de la parole, mais il était d'arrière-plan évangélique. Et ça m'a un petit peu attristé parce que je me suis dit quelque part, il ne vit pas sa foi, il croit que cette tradition peut-être est une bonne morale, mais ce n'est pas une tradition qui nous sauve, frères et sœurs. Ce n'est pas une église qui nous sauve, c'est Jésus, c'est le Sauveur. Donc nous devons croire en Jésus, Jésus, et ainsi nous sommes chrétiens. Alors voilà, on a défini vraiment qu'est-ce que sont les chrétiens, et c'est à eux que cette autorité est donnée. Je remarque, deuxième chose, après avoir défini les chrétiens, c'est que il n'est pas question ici d'un ministère spécialisé dans la délivrance ou dans la guérison. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est quelque chose de destiné d'une manière large. Tout chrétien rempli du Saint-Esprit, en fait, est apte à chasser un démon, à prier pour la guérison d'un malade, même s'il n'a jamais fait de sa vie. La question n'est pas tellement de savoir si on est apte ou pas, mais de savoir comment on doit procéder et si notre vie est en conformité avec la parole de Dieu, si nous sommes vraiment avec cette autorité dans le nom de Jésus pour le faire. Alors, comment faire en pratique? Eh bien, ça, c'est une question importante. On ne sait pas toujours. Je me rappelle, à l'issue d'une réunion de jeunesse, un jour, on a eu une manifestation, il y a plusieurs années, une manifestation démoniaque dans un jeune à l'issue d'une réunion de jeunesse. Alors, on était en train de prier pour cette personne, dans le nom de Jésus, et on tentait de chasser l'esprit. Le problème, c'est qu'on ne savait pas comment faire. Alors, il y avait des pasteurs là qui étaient là. Il y avait un pasteur, il y avait d'autres pasteurs. Moi, j'étais là, j'étais aussi en train de commencer dans le ministère. Je regardais comment on faisait. Et puis, la plupart, on ordonnait au démon de se taire. On lui disait, tais-toi, parce que lui, il s'exprimait, le démon à l'intérieur de la personne. Et en fait, le démon finissait bien par se taire, mais il ne sortait pas. Il sortait pas. Et puis, ça a duré un bon moment, et on n'arrivait pas au bout de cette affaire. Et on est resté avec un échec. Et puis, à bout d'un moment, on a arrêté. La personne n'a pas été délivrée. Alors après, je ne sais pas si par la suite, elle a été délivrée, peut-être. C'était dans une église où j'étais de passage, comme ça. Mais en tout cas, le démon n'était pas parti. Ça, c'était sûr qu'il était toujours à l'intérieur de la personne. On n'a pas su comment faire ce jour-là. En tout cas, on était un petit peu comme les disciples, vous savez, qui s'occupaient d'un enfant qui était lunatique et puis n'avait pas pu le délivrer. Et c'est Jésus qui finalement a prié pour et a chassé le démon. Et puis, une autre occasion, une manifestation s'est produite dans un autre endroit, une autre personne. Et à ce moment-là, l'esprit s'est manifesté encore. Enfin, c'était un autre esprit. Et quelqu'un lui a demandé son nom. Quel était le nom de l'esprit. Et au moment où il a donné son nom, en citant le nom, tu sors de cet homme, l'esprit est sorti avec son nom. Si bien qu'il répondait à un nom particulier et on a pu avoir autorité sur lui en utilisant son propre nom. Ça, c'est un deuxième cas de figure et on a compris comment on pouvait chasser un esprit. Mais un troisième cas de figure s'est produit à un autre moment. Une personne aussi animée par un mauvais esprit, et ce mauvais esprit ne voulait pas prononcer son nom, parce que tous les esprits ne répondent pas forcément. Il y en a qui font les morts ou qui dorment à l'intérieur. Et il ne voulait rien dire. Et là, une autre possibilité qui est survenue, c'est une révélation. C'est-à-dire que Dieu nous a donné par révélation le nom de l'esprit impur qui était dans cette personne, et à ce nom-là, l'esprit est sorti au nom de Jésus. Vous voyez que on peut avoir l'autorité, mais on ne sait pas toujours forcément comment faire pour faire le ministère ou pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous faut aussi apprendre en faisant. Alors bien sûr, on ne veut pas faire n'importe quoi, ça se fait dans un cadre, mais je veux dire qu'il y a des principes spirituels que nous avons dans la parole de Dieu et que nous apprenons aussi à mettre en pratique, et ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu nous demande. Néanmoins, le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, et si on a un échec, si ça n'a pas fonctionné, on peut prier le Seigneur pour qu'il nous dise « Mais pourquoi, Seigneur, ça n'a pas fonctionné ?» Et le Seigneur nous révèle. Et ainsi, on avance, et de toute façon, l'œuvre de Dieu va de l'avant. Maintenant, deuxième question qu'on peut se poser par rapport à ce passage. Après avoir vu les chrétiens, on a dit que ce n'est pas un ministère spécialisé, mais tout croyant rempli du Saint-Esprit, qui a une autorité, il peut agir. Même s'il ne l'a jamais fait, il peut le faire en tout cas. L'autre question, c'est est-ce que ce verset concerne aussi les femmes chrétiennes, puisqu'il est dit à ceux qui auront cru. Est-ce que les femmes sont incluses? Eh bien oui. Eh bien oui. Ça veut dire qu'une femme peut aussi exercer une autorité spirituelle. Vous voyez? Une femme peut aussi imposer les mains aux malades. C'est écrit dans ce texte. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades. Une femme, donc, peut avoir autant d'autorité. Et je vais vous dire quelque chose. En réalité, le démon est soumis, non pas que ce soit un homme ou une femme, mais il est soumis à une autorité. C'est ça qu'il nous faut comprendre, frères et sœurs. Une femme, si elle a reçu de Dieu, elle peut avoir une autorité plus grande qu'un homme qui n'a pas reçu. En réalité, si la femme remplit les conditions, l'esprit méchant est obligé de se soumettre, non pas du fait que c'est une femme ou que c'est un homme, mais du fait de l'autorité qui est sur la vie de cette personne. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que même si cette femme n'a pas de force physique tellement, on dit en général que les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes, quelque part c'est vrai, mais au niveau de l'autorité, si elle a reçu l'autorité, le démon, qu'elle parle doucement ou fort, Je veux dire, les démons ne sont pas sourds. Ce n'est pas la question de la puissance de la voix, c'est la question de l'autorité. Vous savez, Dieu n'est pas sourd, les démons ne sont pas sourds. Ils se soumettent à l'autorité. Et si même une femme qui a peu de force, qui a une petite voix, mais qui a l'autorité du Seigneur, eh bien, le démon sera obligé de partir dans le nom de Jésus. Je voulais citer quelques exemples, comme Jackie Pullinger, qui est une femme qui est partie en Chine, dans la cité interdite. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Il chassait les dragons dans la cité interdite ». Et elle cite pas mal d'exemples où elle a été confrontée à des puissances occultes, des démons, etc. Et comment elle a eu autorité sur ces choses. Aussi, cette femme qui s'appelle Suzette Atting, une collaboratrice de Rainer Bonke, qui a fait aussi de l'évangélisation, qui a vu beaucoup d'âmes se tourner vers le Seigneur et qui a été utilisée pour des guérisons, qui donnait des dons spirituels pendant qu'elle délivrait la parole de Dieu, mais des dons de connaissances, des paroles précises qui étaient véritablement inspirées de Dieu. Et puis, il y a plein d'exemples de femmes utilisées par Dieu. Dans la Bible, nous avons, dans Juges 4, verset 4, nous avons Déborah, qui est une femme avec des qualifications. Il est dit qu'elle était des qualifications spirituelles, elle était prophétesse. Elle avait une autorité, puisqu'il est dit qu'elle était juge en Israël. Donc, c'est vrai que les juges, c'était habituellement des hommes, mais il y a une femme, donc Déborah, qui a eu cette autorité. Elle avait du courage, parce qu'elle a été la seule qui était prête à aller combattre les ennemis d'Israël, alors que Barak, lui, ne voulait pas y aller. Mais parce que Déborah est allée, finalement, Barak, il est allé quand même. Donc, c'était elle qui avait l'autorité spirituelle, c'est elle qui avait l'approbation de Dieu dans sa vie. Elle avait même plus de foi que Barak. Donc, elle est aussi un exemple et elle a mené le peuple de Dieu dans la victoire. On voit que Dieu donc utilise des femmes, utilise des hommes. Ce qui dépend, c'est notre relation avec lui et c'est l'autorité qu'il nous confère pour tel ou tel domaine. Maintenant, quatrième question. Pourquoi doit-on exercer l'autorité spirituelle? Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. D'abord, ici, c'est un commandement de Dieu. Jésus dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Jésus présente les choses comme ça. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu qui est celui où on annonce la bonne nouvelle, où il y a des guérisons, où il y a des repentances, des démons chassés. Et puis, il y a l'empire du diable, qui est un autre royaume. C'est là où nous étions quand nous étions perdus, nous étions pécheurs. Et le chef, leur chef, c'est le prince de ce monde qui les aveugle et qui les tient liés. Et nous, nous sommes dans le royaume de Dieu et nous sommes des représentants. Paul dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente son pays. Alors nous représentons le royaume de Dieu, nous sommes chrétiens, et aussi qui fait connaître la culture de son pays. Et nous faisons connaître par, la parole de Dieu, et puis par notre témoignage, la vie chrétienne. Donc, en tant que représentants du royaume de Dieu, nous avons une mission. Eh bien, Jésus nous la donne ici. Vous allez, et vous allez manifester les œuvres du royaume, c'est-à-dire vous allez annoncer la bonne nouvelle, vous allez prier pour les malades, vous allez chasser les démons, vous allez ressusciter les morts, purifier les lépreux. Mais tout ça, c'est impossible à faire en réalité si nous n'avons pas l'autorité spirituelle. Donc, c'est un commandement de Dieu. Dieu nous dit, voilà ce que vous devez faire, mais nous ne pouvons pas le faire, frères et sœurs, si nous n'avons pas l'autorité pour le faire. C'est pour ça qu'en même temps que Jésus leur a dit d'aller faire ça, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de le faire. Deuxième chose, pourquoi doit-on exercer l'autorité? On a dit, c'est un commandement de Dieu. Dans Luc chapitre 10, c'est le verset que je vous disais, Luc 10, 19. Pour marcher sur les serpents et les scorpions, voici, dit Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc c'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse. Effectivement, Jésus nous a donné. Oui, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour rester assis sur notre chaise et attendre que le temps passe ou juste pour louer le Seigneur? Non, c'est pour marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, il y a ici un combat contre des puissances invisibles. L'ennemi est représenté par des serpents, des scorpions, ça veut dire qu'il ne nous fera pas de cadeaux. Ce sont des animaux nuisibles, dangereux, qui piquent et qui communiquent la mort. Alors, on n'a toutefois pas de crainte à avoir. C'est vrai que, imaginez que là, on vous présente un serpent vivant et un scorpion, et puis qu'on vous dise, allez maintenant, vous allez marcher dessus. On vous dit, on vous assure, rassurez-vous, vous êtes immunisé, même s'il vous pique, vous ne craignez rien. Qui le ferait? Nos yeux sont un vrai problème, parce que si on voit un serpent, la plupart, on se sauve. Même un scorpion, c'est pas nous qui allons marcher dessus, parce que nos yeux nous disent, attention, danger. Et nous fonctionnons beaucoup avec nos yeux. Nous avons peur, parce que nous voyons des choses qui nous impressionnent. Et quand on voit la puissance de l'ennemi d'une manière démesurée, on est comme ça. En réalité, quand on a pris la victoire sur nos yeux, et comme dit Jésus, on fait ce qu'il nous dit par la foi, c'est-à-dire il va falloir y aller quand même en faisant confiance au Seigneur, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir », ça c'est sa part, mais après il nous dit « Ce pouvoir c'est pour marcher, et puis marcher, qui c'est qui va le faire ? Est-ce que c'est le Seigneur qui va marcher, ou est-ce que c'est à nous de marcher maintenant sur les serpents et les scorpions ?» C'est à nous. Et c'est là où souvent il y a un blocage, c'est parce que quand on voit un serpent, un scorpion, on prend direction opposée. Alors que Jésus nous a dit, c'est là la direction, c'est là-dessus que vous allez marcher, et non seulement vous allez avoir la victoire, mais plus rien ne pourra vous nuire. On se rend compte que nous devons marcher par la foi, faire confiance au Seigneur, et ne pas se laisser impressionner par ce que nous pouvons voir. Si nous regardons aux difficultés, c'est un petit peu comme Pierre qui était dans la tempête. Il a regardé le vent, la mer, il s'est enfoncé, il ne pouvait plus marcher sur l'eau. On ne peut pas marcher sur les serpents, les scorpions, si on n'a pas la foi, si on n'est pas convaincu que Jésus nous envoie et qu'il nous a donné ce pouvoir. Donc tout est lié, vous voyez, l'autorité est liée à la foi. Et enfin, pourquoi est-ce que nous devons exercer l'autorité? Troisièmement, pour faire l'œuvre de Dieu. Tite, chapitre 2, verset 15, c'est Paul qui dit à Tite, un serviteur de Dieu, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Paul donne donc des instructions à Tite, qui est un collaborateur qui doit organiser l'église de Crète. Et comme il y avait beaucoup de croyants ici dans la même région, il fallait organiser des églises. Donc Tite devait nommer des anciens, établir les églises. Il y avait tout un travail considérable. Non seulement Tite annonçait la parole de Dieu, il encourageait les églises, il devait faire face à certaines difficultés, il ne faut pas croire que c'est toujours tout facile. Il y avait des éléments difficiles, par exemple, Paul lui dit « maintenant tu dois reprendre » parce qu'il y avait en fait des chrétiens qui n'étaient pas droits, il fallait reprendre certaines choses, il y avait du désordre. On a tendance un petit peu à idéaliser les premières églises, mais quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, par exemple, on se rend compte qu'il y avait des gros problèmes dans certaines églises et qu'il fallait vraiment de la discipline et de l'ordre pour remettre les choses d'aplomb avec la parole, et ce n'était pas facile, c'était aux responsables de le faire. Il avait été nommé donc pasteur, c'était aussi pour reprendre avec autorité. Alors, la Bible dit que aussi Tite devait faire face à un certain mépris. C'est pour ça que Paul lui dit que personne ne te méprise. Il y avait des contradicteurs. Tite avait rencontré de la déception, il y avait de l'opposition. Mais vous voyez que Paul va l'encourager à persévérer à faire l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de faire la volonté du Seigneur. On va rencontrer des obstacles, il va y avoir de l'opposition. Néanmoins, on a des encouragements qui viennent du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut nous fixer, frères et sœurs. Ce n'est pas tellement à regarder au mépris, aux contradicteurs, à l'opposition. Il y en aura toujours. Ce qu'il nous faut regarder, c'est les encouragements et continuer à faire ce que le Seigneur nous a demandé. Tite a fait comme ça. Il a ainsi pu aller plus loin. Alors, pourquoi devons-nous exercer l'autorité? Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire enseigner la parole de Dieu, exhorter, reprendre. Cinquième question, quand devons-nous exercer l'autorité spirituelle ? Actes chapitre 16, verset 16. Actes chapitre 16 et le verset 16. On voit ici un exemple d'une délivrance qui va avoir lieu. Actes chapitre 16, nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez ici, l'esprit est nommé. Je vous disais tout à l'heure qu'il parfois, c'est nécessaire de connaître le nom. Ici, c'était un esprit de python. Un autre, il s'appelait Légion. On a comme ça des exemples de noms. J'en avais donné dans un autre message, de noms d'esprits impurs. Et quand est-ce qu'il nous faut exercer l'autorité spirituelle ? Eh bien, quand l'occasion se présente. Il ne s'agit pas de rechercher les mauvais esprits, de courir après eux. Mais ils vont se manifester à un moment donné. Il nous faut être prêts à exercer l'autorité spirituelle à ce moment-là. Il faut aussi du discernement parce que tout n'est pas l'œuvre des mauvais esprits. Parfois, certains ont cru que telle ou telle chose était l'œuvre d'un mauvais esprit, mais c'était l'œuvre de la chair. Vous voyez, il y a des confusions. Alors, il ne faut pas confondre. Là, c'était vraiment un mauvais esprit. Et c'est arrivé comme ça. Paul n'était pas spécialement préparé. Il n'avait pas été averti à l'avance qu'il allait croiser une femme avec un mauvais esprit. Mais quand ça s'est produit, en tout cas, il était prêt à exercer l'autorité spirituelle. Donc, quand est-ce que nous devons l'exercer ? Eh bien, au moment où l'esprit se manifeste. Paul et Silas se rendaient à un lieu de prière. C'était des serviteurs de Dieu, donc. Et on voit cet esprit de python. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de python ? C'est un esprit de divination. Cette femme, donc, prédisait l'avenir et rapportait beaucoup d'argent à ses responsables. Et quand elle a été délivrée, d'ailleurs, ça a posé problème pour eux. On se rend compte que la voyance et l'astrologie sont toujours des choses très lucratives. Et qu'aujourd'hui, il y a des milliards qui sont brassés par ces choses. Mais attention, frères et sœurs, nous sommes bien informés que l'astrologie, la voyance, ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour s'amuser. Et on va lire les lignes de la main et on va faire tourner les tables. Et ils font ça comme un jeu. En réalité, on entre en contact avec des esprits mauvais. Et même s'ils ne le savent pas, c'est une réalité spirituelle. Les mauvais esprits n'ont aucun pouvoir de deviner l'avenir. Alors comment se fait-il qu'il y a des voyants et des voyantes ? Les mauvais esprits ont le pouvoir d'influencer les gens, du moins ceux qui se laissent influencer, parce qu'ils connaissent le passé des gens, et ils connaissent leurs attentes et leurs besoins. Ainsi, ils vont diriger, ils vont faire une annonce de l'avenir, et puis ils vont faire en sorte que l'événement se produise. Mais en réalité, ils n'ont pas de vision de l'avenir, ils ne savent même pas quand le Seigneur va revenir, ils ne savent rien de ce qui va se passer demain. Ils sont limités. Toutefois, si on regarde ce que dit cette femme au verset 17, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. » On se rend compte que tout ce qu'elle dit, c'est juste. C'est un petit peu ce qui est pervers dans le côté voyance et dans le côté occulte, c'est qu'il peut y avoir des paroles exactes, des paroles justement qui vont dire « Ah ben, elle a dit ça sur ma vie, c'est la vérité. » Et voyez, ça va convaincre certains que c'est bon. Alors qu'en réalité, même si ce qu'elle dit, c'est tout à fait juste, ce n'est pas Dieu qui l'inspire. Elle est inspirée par un mauvais esprit. Ça me fait penser à Jésus qui, à un moment donné, a fait taire un mauvais esprit qui disait « Tu es le Saint de Dieu ». Vous vous rappelez ce passage dans la synagogue ? Et Dieu n'a pas permis qu'un mauvais esprit publie que Jésus, c'était le Messie. Il a fait taire le mauvais esprit. Et Paul a agi de même. Cette femme risquait de créer une confusion entre l'occultisme, parce qu'elle était animée d'un esprit de voyance, et puis l'évangile qui était annoncé. Ça n'a rien à voir. Alors, Paul a voulu faire taire cette femme et il a pris autorité, non pas contre la femme, mais contre l'esprit qui l'inspirait, qui l'animait, Et il a chassé donc l'esprit qui est sorti d'elle, c'est écrit, et alors même elle fut délivrée. Alors, vous voyez que quand est-ce qu'on doit exercer l'autorité spirituelle ? Ben, quand l'occasion se présente, il faut être prêt pour le faire dans le nom de Jésus. Et une dernière question, comment devons-nous exercer l'autorité spirituelle ? Alors, on peut lire dans Actes chapitre 4, ici c'est dans le cadre d'une guérison. Actes chapitre 4 et au verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, c'est le même mot que autorité toujours, ou au nom de qui avez-vous fait cela ? C'est-à-dire qu'il vient d'y avoir une guérison d'un boiteux. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alors là, on a bien sûr la réponse. Comment on doit faire ? Bien, c'est dans le nom de Jésus. Il a pris autorité au nom de Jésus. Hein, il le précise bien. C'est au verset 10. Sachez, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est comme ça qu'a pu avoir lieu la guérison. Pierre n'avait aucun pouvoir particulier, mais il connaissait celui qui a tout pouvoir et toute autorité, Jésus. Et il dit, c'est par le nom de Jésus. Autrement dit, Pierre ne s'attribue aucune gloire dans le résultat. C'est Jésus qui a toute la gloire. Il y a un chant qu'on prend parfois dans les ailes de la foi qui dit « Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons. » C'est le nom de Jésus. Ils lâchent leurs victimes, ils ouvrent leur prison. Alors, frères et sœurs, nous devons toujours mettre en avant le nom de Jésus. Pierre s'est effacé et il a présenté Jésus-Christ de Nazareth. Comment on doit exercer l'autorité spirituelle ? On peut rajouter avec foi, parce que dans ce texte, chapitre 3, il est dit que on voit que ce passage, cette guérison s'est faite par la foi, c'est par la foi en lui, hein, c'est par la foi en lui que cet homme se tient debout. Donc Pierre avait une foi inébranlable en Jésus, et c'est vrai que Dieu voit si on a la foi, et l'ennemi il voit si on a la foi ou pas. Et si on doute, eh bien, on ne peut rien faire. Donc il nous faut avoir la foi, il nous faut le faire avec sagesse. Je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de chercher à voir des démons partout, mais il faut les chasser quand ils se manifestent ou quand ils se présentent, comme ça se passe dans la parole de Dieu. Toutes les maladies ne sont pas des démons, mais néanmoins, on sait que certaines maladies sont d'origine démoniaque. Et aussi qu'une personne qui est démonisée ne sera pas délivrée si on prie pour elle pour sa guérison. Il faut chasser le mauvais esprit. Donc c'est deux choses différentes. Donc avec sagesse, ensuite il nous faut le faire sans crainte parce que bien souvent on est influencé par toutes sortes de médias qui font peur avec les démons. Alors on a une image des démons qui font peur, etc. Mais nous on n'a rien à craindre des démons, on n'a absolument pas à avoir peur d'eux. C'est eux qui auront peur de vous si vous avez l'autorité, si vous marchez dans le nom de Jésus. Vous n'avez absolument rien à craindre, il ne faut jamais surestimer leur puissance. Je voulais prendre l'exemple d'un chien, par exemple. Un chien. Les chiens, ils ressentent si on a peur ou pas. Et si vous avez peur, vous êtes en danger. Si vous n'avez pas peur, vous prenez autorité sur le chien. Mais les démons, c'est un peu pareil. Ils ressentent si on a peur ou pas. Si on a la foi ou pas. Ils le ressentent. Et si on n'a pas la foi, ils ne partent pas. Si on a la foi, on a l'autorité dans le nom de Jésus, ils partent. Ils se soumettent à cela. Simplement, il ne nous faut avoir aucune crainte. Ensuite, l'orgueil. Il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil parce que Pierre aurait pu tomber dans ce piège. S'il s'était attribué quelque gloire en disant « Oui, c'est par mes mains que cet homme a été guéri », vous voyez, il aurait perdu son autorité spirituelle. Mais comme il est resté humble, bien Dieu l'a béni. On a l'exemple de Paul, dont il est dit qu'il était connu même dans le monde des démons. Puisque à un moment donné, lorsqu'il y a un possédé qui répond aux sept fils de Séva. Il leur dit, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc, ils connaissaient le nom de Paul. Et pourtant, Paul restait humble, parce que même s'il était connu dans le monde spirituel comme quelqu'un qui chassait les démons et qui accomplissait l'œuvre de Dieu, il est resté un serviteur de Dieu et il mettait toujours Jésus en avant, un peu comme Pierre dans ce passage. En conclusion, on a vu donc cette série de sept messages sur l'autorité spirituelle. On voit que c'est une nécessité pour faire l'œuvre de Dieu, on en a besoin. Donc prions le Seigneur, frères et sœurs, que Dieu nous accorde cette autorité et qu'on puisse l'utiliser pour sa gloire. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de lui faire confiance, de parler avec foi et de ne pas craindre l'adversaire et ses manifestations. On va prier quelques instants le Seigneur. L'autorité spirituelle n'est pas réservée à quelques personnes, une sorte d'élite. On voit que Jésus a prévu que c'est pour tous ceux qui croient. Donc c'est à nous, finalement, de le rechercher et d'exercer dans la foi ce que Dieu désire nous donner. Maintenant, si nous doutons, si nous sommes incrédules, c'est clair que le Seigneur ne pourra rien faire avec nous. Il nous faut avoir un cœur réceptif et agir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons ensemble te bénir pour ces exemples qui nous rappellent tout ce que tu attends de nous, Seigneur. Et nous voulons considérer quelle est la vérité. Nous avons besoin d'être armés face au monde spirituel qui est autour de nous, face aux puissances, aux esprits méchants, aux démons qui agissent. Seigneur, nous voulons être des chrétiens remplis de ton esprit, efficaces dans ton œuvre, qui n'ont pas peur de proclamer les vérités, de prier pour les malades, de chasser les démons en ton nom. Seigneur, c'est ce que tu nous as demandé, nous voulons le faire avec foi. Merci de nous équiper, Seigneur, et de nous accorder encore des victoires. Béni soit ton saint nom, affermis-nous, Seigneur. Remplis-nous de cette vision spirituelle, que ton royaume grandit, qu'il y a des conversions, des délivrances en ton nom. Oui, Jésus, nous voulons être débarrassés, délivrés de toute incrédulité, de tout doute qui vient envahir nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions pour que vraiment nous soyons une église vivant dans les dons spirituels, dans la foi. Bénis mes frères, mes sœurs, et accorde-nous ta paix dans cette journée. Amen.